Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Et je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct à 11h.
Dans Chartreuse Info. Chartreusins, chartreusines, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes le mardi 15 septembre, le soleil brille sur Saint-Laurent-du-Pont et en plus c'est très bizarre parce qu'il y a plein de vélos et de camping-cars, je pense que vous êtes au courant. Quant à nous, on va commencer par une interview de Lydia Mogor qui travaille à la mairie de Voiron, qui va nous parler du défi World Clean Up Day 2020. Et puis ensuite nous aurons une interview de Mathieu Blanchin qui, avec sa BD Le Val des ânes, a eu le prix du meilleur premier album du Festival international de la BD en 2002 et qui est le parrain du Festival de la BD qui va se tenir à Saint-Étienne-de-Crossey les 3 et 4 octobre. Et puis bien sûr, vous aurez aussi toutes les rubriques habituelles, info locale, la rubrique prénom, on va souhaiter une bonne fête au Roland aujourd'hui, l'horoscope et le cinéma. Là, on va commencer par écouter une chanson de Camélia Jordana qui fête ses 38 ans aujourd'hui. Alors elle a été révélée en 2009 dans Nouvelle Star, elle a eu le 3e prix et depuis, elle a fait plein de choses. On va écouter Non, non, non et après on retrouve Lydia Mogor.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron, non, 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 non. Salon.
Alors comme promis, on va parler nettoyage avec Lydia Mogor. Vous êtes bien à l'antenne là?
Oui, je suis bien à l'antenne. Bonjour.
Super, bonjour. Alors déjà, je voulais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes, quelle est votre fonction?
Alors je suis adjointe en charge du cadre de vie, des commerces et des conseils de quartier. Sur la ville de Voiron.
Un vaste programme.
Voilà.
Donc oui. Aujourd'hui, on va parler nettoyage. Je suis un petit peu allée prendre quelques renseignements. C'est un mouvement citoyen qui est né en Estonie. Alors l'Estonie, c'est sous la Finlande, en 2008. À la base, il y avait 50 000 personnes qui s'étaient mobilisées. Et l'objectif, c'est rassembler la population autour d'une action commune et concrète, nettoyer les espaces naturels de ces déchets. Et la première édition française, c'était en mars 2017. Est-ce que Voiron a participé déjà à cette époque-là ?
Non, Voiron a participé grâce... en fait, à Raphaël Poncet au départ, en 2018.
D'accord.
Voilà.
Et en 2019, je sais qu'au niveau national, ça a eu un énorme succès. Il y a eu 265 000 personnes qui se sont mobilisées en France et qui ont ramassé 840 tonnes de déchets. On a un peu des chiffres sur Voiron ou pas ?
Alors, les chiffres, non, j'ai pas les chiffres exacts. Mais par contre, nous, sur Voiron, l'année dernière, on avait 150 personnes.
Ah oui,
donc,
c'est pas mal, hein.
Au niveau du nettoiement, nous, au départ, à la ville de Voiron, depuis 2014, on faisait la fête de la propreté. Et on avait quand même moins de monde. Hein. C'est vrai que l'impact World Cleanup Day a été énorme.
Bon.
Voilà.
Et d'ailleurs, il y a plein d'associations qui vous rejoignent. L'année dernière, c'était l'association des pêcheurs du Voironnais et l'association 18 mois. Qu'est-ce que c'est l'association 18 mois ?
Alors, l'association 18 mois, en fait, c'est Alicia, qui habite à Prieux, qui a créé cette association, qui regroupe en fait plein de lycéens. Mmh. Et en fait, régulièrement, même au-delà du World Cleanup Day, toutes les semaines, ils choisissent un lieu dans l'Isère et ils nettoient.
Et
voilà.
Ben, c'est impressionnant.
Donc, vraiment une démarche, Alicia. J'ai trouvé ça génial. Et puis, ils sont vraiment, par contre, voilà, c'est pas de voiture, ils utilisent des gants jetables. Enfin, ils sont vraiment... à fond pour la planète. Hein.
Eh ben, quand on dit qu'ils sont tous coincés devant leur ordinateur, non, il y en a qui se mobilisent.
Ah oui, ils étaient nombreux, ils étaient une cinquantaine l'année dernière.
Ah oui. Et cette année, il y a deux autres associations, Zero Waste Pays Voironnais. Alors ça, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une association qui vient juste de se créer, donc pour le moment, elle en est encore à ses débuts. Je dois les rencontrer la semaine prochaine. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore eu... c'est vrai que c'est dans la même dynamique hein, pour tout ce qui va être sauvant la planète, enfin essayer de savoir utiliser au mieux tout ce dont on a besoin, voilà, pour économiser l'eau, enfin voilà, être vraiment attentionné tous les jours, chaque jour par rapport à essayer de faire au mieux pour moins polluer, voilà, et économiser l'énergie.
Et j'ai vu aussi que Kiabi Voiron rejoint l'aventure.
Ah mais Kiabi Voiron l'année dernière déjà participait. Alors c'est la responsable de magasin en fait, parce que la chaîne Kiabi est très 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 adore tout ce genre de choses et c'est eux qui poussent les équipes en fait à en faire de même, et la responsable de Voiron donc le fait avec toute son équipe. Par contre du coup elles le feront le dimanche matin, puisque le samedi le magasin étant ouvert elles pourront pas. Mais elle était aux réunions et je trouve ça chouette que les magasins s'impliquent dans ce genre de choses.
Et au sujet du programme de la journée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors en fait, on accueillera les bénévoles à 8h place des Arcades, donc pour distribuer les circuits et prendre le matériel de ramassage, en sachant que si les personnes peuvent venir, avec les masques, les gilets jaunes, enfin s'ils ont des gilets, qu'ils les prennent. Et des gants à eux, parce que par rapport, on aura des gants jetables, mais par rapport au Covid, on met quand même en place, par exemple pour la distribution du matériel, on aura un circuit pour éviter les croisements, qui sera mis en place, pour éviter, en gardant les distanciations, pour qu'on puisse quand même organiser cet événement. Voilà, donc à 8h accueil des bénévoles, on leur donne leur circuit, il y a ramassage de 8h30 à 10h30, après ils reviennent sur la place des Arcades à 11h, on fera une photo, il y aura un verre aussi d'amitié, mais pareil, qui sera organisé de manière à ce que personne ne soit trop en contact. Et de 11h à midi, démonstration du matériel de propreté de la ville de Voiron. Ah. Voilà, donc c'est vraiment la matinée.
Ah oui, et tout le monde peut participer ?
Ah oui, des petits aux plus grands, sans aucun problème.
Si on
tout le monde est les bienvenus.
Il faut s'inscrire quelque part ou...
Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site de la ville. Mais si vous venez à 8h, il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais. Souvent aussi, les gens qui veulent faire plutôt leur secteur peuvent venir récupérer le matériel le vendredi avant au service technique, ce qui leur permet de partir tout de suite du point qu'ils veulent faire. Voilà. Ouais. Donc pour ça, c'est mieux de s'inscrire.
Et ça a dû être une sacrée organisation parce que Voiron sera découpé en une quarantaine de secteurs et la collecte organisée par petits groupes de combien de personnes?
Oui, de 4 personnes.
4 personnes, d'accord.
Oui, 4 personnes. Et en fait, mais comme ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait, on commence à être rodé. Il y aura des macarons stationnement gratuits qui seront fournis aux participants. Il y aura les zones de chevalet avec sur un les zones au nord et sur l'autre les zones au sud. Et puis on donne chaque donc on fait des groupes de 4. Et après en fait c'est les services techniques qui ont des points pour récupérer tous les déchets puisque du coup on ne demande pas aux participants de revenir au point de départ avec et qui récoltent du coup pendant que nous on prend le verre d'amitié récupèrent tout pour tout ramener sur la place des Arcades.
Et puis vous avez pensé à tout, j'ai vu que c'est bien d'amener une bouteille en plastique pour mettre les mégots.
Oui.
Il y a encore des gens qui jettent leurs mégots par terre, du coup.
Ah oui, on en avait énormément l'année dernière. Et puis, je trouve que dans les bouteilles de plastique, ça, c'est 18 mois qui nous a donné l'idée. C'est bien visible, comme ça. On voit bien. Et cette année, on aura un sac supplémentaire pour tout ce qui est, bien sûr, masque jeté dans la rue. Mm. Pour montrer aussi aux gens que, voilà, à un moment donné, il existe des poubelles pour ça aussi. Puisque bon, du coup, depuis le confinement et le Covid, c'est quand même des choses qu'on retrouve dans les rues.
Oui.
Voilà.
Au fil des années, est-ce que vous trouvez que les gens font plus attention? Est-ce qu'il y a une prise de conscience du côté de la propreté ou pas?
Ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, d'associations qui se manifestent pour ce genre d'événement. Et qui crée ce genre de choses tout au long de l'année. Donc, pour moi, c'est un signe positif. Après, je pense que les consciences ne sont pas encore totalement là. Par exemple, au niveau de tout ce qui est point d'apport volontaire, on a tout le temps des monticules de déchets, de dépôts sauvages. Il y a de plus en plus de dépôts sauvages. Donc, je me dis que c'est en faisant ce genre d'action, un peu phare, un peu choc, comme ça, que peut-être que, au fur et à mesure du temps, les gens prendront un peu plus conscience, mais c'est un travail de longue haleine.
Bah oui. Du coup, voilà. Je vous fais rater le Tour de France aujourd'hui.
Oui, c'est terrible. Non, parce que je vais vous dire un secret, je suis pas loin. Ah. Je suis pas loin du Tour de France, donc quand j'aurai fini avec vous, je vais vite y aller.
D'accord. Eh ben c'est bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les infos. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Venez le plus nombreux possible. Malgré la situation, mais avec les masques et puis des produits hydroalcooliques, on devrait s'en sortir. Et je pense que c'est un événement qui est important et ce serait bien qu'il y ait plus de monde possible.
Oui.
Et je vous remercie de m'avoir interviewé pour ça.
Avec plaisir. Donc je rappelle le rendez-vous dimanche 20 septembre à Voiron.
Non. Samedi 19.
Ah, samedi 19, d'accord.
Oui, c'est samedi 19 de 8h à midi, qui habille le fait de dimanche matin. Mais nous, c'est
samedi. Oui, c'est vrai. Heureusement que vous êtes là, j'allais dire une bêtise. Donc rendez-vous à 8h, place des Arcades.
Voilà.
Voilà.
Et je vous remercie infiniment.
Et merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir. On enchaîne en musique parce que aujourd'hui, c'est le jour où Johnny Ramone nous a quittés. Là, c'était en 2004, donc il y a 16 ans. C'était le leader du groupe punk The Ramones. Alors, il faut savoir que ça a été un groupe qui a vraiment lancé le punk rock. Premier groupe de punk rock formé en 1974 à New York. On écoute un morceau qui s'appelle I Wanna Be Sedated. c'est le moment de souhaiter une très bonne fête à tous les Roland. Alors, qu'est-ce que ce prénom signifie ? Il faut savoir que les éléments Rod et Land, qui composent la forme ancienne du prénom Roland, signifient gloire et territoire. Une petite anecdote au sujet de Saint Roland, c'est quelqu'un qui s'est réfugié pendant 30 ans dans le silence. Donc, j'aurais pas pu l'interviewer de toute façon. Au niveau de l'histoire, le prénom Roland s'est répandu dans toute l'Europe dès le XIIIe siècle et il est devenu rapidement populaire. En France, il a été surtout populaire au XXe siècle et sa cote a commencé à baisser dans les années 60 et là, il est de moins en moins attribué. Alors, au niveau du caractère, les Rolands sont des êtres extrêmement énergiques et vifs. Ils préfèrent agir, ils ne tiennent pas en place. Ils sont aussi profondément sensibles, ils s'attachent facilement et ont tendance à se montrer possessifs, voire jaloux. L'âge moyen des Rolands, c'est pas très jeune, du coup, c'est 79 ans. Et dans les romans célèbres, on peut citer bien sûr Roland Garros, Roland Barthes, et puis plein d'autres, des politiciens, Roland Dumas, le réalisateur anglo-français Roland Joffé, etc., etc. On va passer à notre rubrique cinéma maintenant. Au cinéma Le Quartus, ce soir, vous pourrez voir encore le film Tenet. Alors, c'est incroyable qu'il passe aussi souvent. Je suppose qu'il est très très bien et que les gens ont envie d'aller le voir. En tout cas, c'est plus pour les amateurs de science-fiction. On écoute la bande-annonce.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant.
Pour faire mon travail, il faut que j'aie une idée de ce qui nous menace.
D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale.
Je ne vois pas d'apocalypse là.
Non. Pire que ça.
Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe.
Pourquoi faire appel à moi ?
Vous tenez à le savoir ? Il peut communiquer avec l'avenir.
Voyage temporel ?
Non. Inversion.
Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez.
Wow.
Bon, j'en ai trop vu, là.
On va essayer de suivre le rythme.
Notre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie.
Ça paraît audacieux.
Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé.
C'est ici que nos mondes s'entrechoquent.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Vieux ?
Vous n'avez pas choisi le bon métier.
Il s'est passé quoi ici ?
Ça s'est pas encore passé.
Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous.
Allez, plus vite !
Qui ont besoin de Tenet.
Nous devons les sauver, ici et maintenant.
Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Vous voulez écraser un avion ?
Et c'est le moment de voir ce que les planètes vous réservent pour aujourd'hui. Je fais les chroniques un petit peu en avance parce qu'après nous aurons l'interview de Mathieu Blanchin. Alors, si vous êtes bélier, votre imagination, vous travaillez, vous fantasmez beaucoup, pourquoi ne pas utiliser cette créativité pour en faire un poème, un dessin ou une chanson ? Taureau, encore une journée consacrée à la famille, en ce moment, ça vous plaît beaucoup. Gémeaux, vous rayonnez ou vous ronronnez vous aussi en famille ou dans votre foyer. Cancer, en ce moment, vous avez un grand sens de la communication et vos démarches vont aboutir. Vous allez réaliser de très très bonnes affaires. Lion, par contre, pour vous, ce n'est pas une journée favorable aux gains. Vous pouvez par contre continuer à tirer des plans sur la comète. Vierge, vous avez besoin d'un peu de calme avant de repartir dans l'action. Balance, certaines relations vous déçoivent et vous préférez prendre du recul, mais par contre, il ne faut quand même pas trop vous couper du monde. La devise pour vous aujourd'hui, Scorpion, c'est « à chaque jour suffit sa peine ». Sagittaire, vous rêvez d'exotisme et d'escapade, mais avant, il va falloir vous consacrer à la réalisation de vos buts socio-professionnels. Capricorne, vous, attention à la gestion de votre budget. Verseau, vous êtes très sensible aux vibrations des autres aujourd'hui. Et Poissons, si vous souhaitez entretenir de bonnes relations avec votre partenaire, il va falloir commencer par donner un sérieux coup de frein dans vos activités quotidiennes. Voilà, on poursuit en musique avec un morceau de Jessie Norman. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'était une diva, une cantatrice américaine, une soprano dramatique à la voix imposante. Elle aurait eu 75 ans aujourd'hui et selon elle, elle pensait que le monde serait un endroit plus affectueux et plus aimable s'il y avait plus de femmes à la tête de gouvernement. À voir. On écoute un morceau qui s'appelle Morgan. Bonjour Mathieu, est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, bonjour Catherine, je vous entends.
Bon, ben, déjà merci pour cette interview. Je rappelle que vous êtes le parrain de l'événement Sa Bulle au Village, première édition du Festival BD les 3 et 4 octobre 2020 à Saint-Étienne-de-Crousey. Mais déjà, moi, j'aimerais bien faire plus connaissance avec vous. Alors, oui. J'ai vu que vous êtes un enfant du pays à la base.
Oui.
Non, parce que là, vous êtes à Paris, si j'ai bien compris.
Ben oui, il y a un moment donné où, surtout qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas Internet et le numérique, il fallait monter à Paris si on voulait faire de l'édition.
Ben oui.
Voilà.
Mais c'est plus le cas maintenant. Voilà. C'est plus le cas maintenant.
Donc j'y suis resté. Voilà.
Oui, mais c'est plus le cas maintenant, on n'est plus obligé de monter à Paris.
Ben il y a. Les éditeurs jeunesse sont encore beaucoup sur Paris, mais en bande dessinée, maintenant, ça s'est développé dans beaucoup de villes de France. Et puis, on peut dessiner, même si, comme moi, on dessine tout en traditionnel, comme on dit. C'est-à-dire, je ne travaille pas du tout avec les instruments numériques, à part pour faire un scan de temps en temps. On peut travailler à distance maintenant, bien sûr. Et j'envisage, je ne sais pas... quand, mais de quitter la région parisienne à un moment, en tout cas.
Ah oui, pour revenir par ici ou...
Pour revenir par ici ou retrouver une ambiance plus proche de mes goûts et de ma jeunesse aussi, c'est-à-dire plus campagnarde.
Oui, c'est à cause du confinement peut-être ?
Oh non, j'ai la chance d'habiter une maison à Montreuil avec un jardin.
Ah.
Donc le confinement... C'est vraiment très bien passé.
Bon. Et donc, revenons à votre parcours. Au départ, vous êtes intéressé au cinéma et à la danse.
Oui.
C'est une bonne info, ça.
c'est
pas
vrai.
Faux.
Oui, mais c'est rarement mis côte à côte.
Oui,
voilà.
Oui c'est ça.
Le cinéma, disons, j'ai fait un petit peu de films d'animation pendant mes études à l'école Émile Cole à Lyon. Dont j'étais un étudiant de la première promotion en 84, oui, c'est ça. Et après ça, j'ai fait pas mal d'animations aussi pour m'occuper des enfants. C'est un autre genre de film d'animation.
Oui.
Et la danse, c'est, disons que c'est par goût que je danse énormément depuis tout jeune. Et dès qu'il y a une musique qui me parle, d'ailleurs, c'est difficile de retenir. Et ça m'est arrivé de danser en studio pendant des interviews. Parce que si la musique est bonne, comme dit la chanson, quand la musique est bonne.
Ah oui. Ah bah tout à l'heure, voilà. On a passé les Ramones. Vous auriez...
Ah oui. Ah bah oui, là, ça peut me réveiller.
Oui, voilà. Nous, ça nous a bien réveillés, en tout cas.
Chouette.
Oui. Et ensuite, vous êtes arrivé à Paris, vous avez créé des storyboards. Qu'est-ce que c'est, ça
hein ? Storyboard, en anglais, ça veut dire planche dessinée. Mmh. Le storyboard, on ne peut pas vraiment dire que c'est la bande dessinée d'un film, c'est plutôt des images préparatoires qui donnent une idée des séquences ou des scènes successives pour ensuite passer à l'étape du film, de l'enregistrement caméra. Et certains réalisateurs... alors, dans l'animation, c'est quasiment indispensable. Dans le film d'animation, à part l'animation avec du sable ou des éléments naturels directement filmés image par image, et encore, on a besoin d'un storyboard pour commencer à imaginer image après image ou séquence après séquence quelles vont être les étapes successives d'un film. Et dans les années 80, à Paris, il y avait beaucoup de travail pour les storyboarders, dans la publicité et dans le cinéma aussi, pour justement aider les réalisateurs à visualiser leur propre image de leur film.
Ah oui, d'accord.
Hitchcock était un grand dessinateur de storyboard pour ses propres films, par exemple.
Ah oui. Oh ben, je savais pas.
Tarantino dit que son storyboard, il n'en a pas besoin. Dès qu'il a la musique du film, il a les images.
Bon.
Voilà.
Et après, vous avez commencé une carrière d'illustrateur auprès d'éditeurs comme Hachette, Flammarion, Nathan, Gallimard, Bayard Press et J'ai lu. Vous avez publié vos bandes dessinées dans Pilote et Charlie, et puis dans Lapin, alors je ne sais pas que ça existait. Et oui. Vous avez donné des cours à l'école Étienne à Paris. Qu'est-ce que vous avez préféré alors? Ça vous a plu de donner des cours?
Oui, c'est passionnant d'être en relation avec des personnes qui ont, je dirais, comme souvent quand on débute, quand on est artiste, on a des envies, on peut avoir des envies très fortes, voire même des pulsions de dessin, moi c'était mon cas, mais sans savoir trop comment les orienter, et surtout sans savoir au début quelle forme ça va donner. Est-ce que ça va être une forme plutôt de est-ce que ça va aller vers la peinture, vers le ce qu'on appelle plutôt des formes artistiques, l'installation, le dessin, la narration, voilà. Moi, clairement, ce qui me plaît beaucoup dans l'enseignement, c'est de pouvoir accompagner des personnes à tirer parti de leurs idées, au mieux, pour faire un récit ou pour un film qui soit visible et intéressant. La question, c'est qu'il n'y a pas de sujet qui soit inintéressant en soi, mais comment, à partir de n'importe quel sujet et n'importe quelle envie, tirer le meilleur parti.
Oui.
Expressif. Mmh. Voilà. C'est ça qui me plaît beaucoup dans l'enseignement, parce que c'est mon souci dans mon travail.
Bah oui.
Voilà.
Et en parlant de travail, en 2002, ça y est, ça a été la consécration. Vous avez eu le prix du meilleur premier album du Festival international de la bande dessinée. Il s'appelait Le Val des ânes. C'était un récit autobiographique. Vous écrivez souvent des choses autobiographiques?
C'est par, je dirais, par période, par impulsion. J'ai besoin de raconter certains souvenirs. Mmh. Et 2002, ça a été aussi l'année où je suis tombé dans le coma.
Ah.
Et après cette aventure-là, j'ai alterné. Et encore aujourd'hui, j'alterne maintenant, même si je fais assez peu de livres par rapport à certains confrères, parce qu'il me faut beaucoup de temps pour arriver à maturation. J'alterne des œuvres de fiction avec des livres plus autobiographiques.
Mais quand vous dites...
C'est pas une intention... comment dire, c'est pas sur une décision que je fais un livre, c'est plutôt quand je tombe de passion pour un sujet, et parfois ce sujet-là, c'est mon passé, les éléments de mon passé, de mon histoire qui m'ont marqué.
D'où l'ouvrage en 2002 qui s'appelle « Quand vous pensiez que j'étais mort, mon quotidien dans le coma ». Mais ça, c'est un livre ou il y a des dessins?
Alors, c'est une bande dessinée qui est sortie chez Futuropolis en 2015, 10 ans justement après mon coma. Pendant ces 10 années, j'ai toujours voulu à un moment donné non seulement raconter mes souvenirs de coma, mais aussi comment toutes les étapes de guérison qui ont été extraordinaires, et aussi comme une parenthèse inouïe dans une vie, c'est-à-dire se remettre d'un coma duquel je suis revenu avec énormément de souvenirs et de perceptions, c'était déjà en soi une aventure incroyable. Et justement, je me suis dit un jour, si j'ai la force, et je raconterai ce cheminement. Et effectivement, ce livre est sorti en 2015. Ça raconte les expériences extrêmes de perception à l'intérieur de mon coma, ce qu'on peut appeler une expérience de mort imminente, et également le chemin de guérison. Bah, je suis passé par... la rencontre de la sagesse des Amérindiens, une psychanalyse, etc., etc.
Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est votre psychiatre qui vous a invité à écrire vos souvenirs de cette période-là.
Oui, Didier Dumas, qui était psychanalyste, qui n'était pas psychiatre, mais qui était un grand psychanalyste pour enfants, et qui m'a encouragé à l'époque, oui, pour que je m'en libère aussi. À écrire. Il voulait même que j'écrive un livre, mais comme comme on dit dans le métier en rigolant, un vrai livre, que des mots, pas d'images.
Mais ça, c'est dur pour vous, je pense, non?
Oui, absolument. Et au fil du temps, comme mon moyen d'expression le plus direct, c'est le dessin, j'ai finalement fait un livre de bande dessinée.
Mais du coup, parce qu'être dans le coma, ça fait peur à tout le monde, c'est une expérience terrorisante ou est-ce qu'il y a des choses positives dedans ?
Moi, j'en ai retiré beaucoup de choses positives qui m'ont même conduit à changer ma vie.
Ah oui.
Disons que changer ma vie, c'était pas... souvent, changer sa vie, on imagine un changement de continent, divorce, que sais-je. D'ailleurs, c'est ce que les médecins souvent observent. C'est que ça chamboule tellement que la personne qui a vécu un coma peut être traumatisée au point de tout chambouler. Moi, ça n'a pas été ça. C'était plus diffus, plus... Mais disons qu'il y a un moment donné, par exemple, vous donnez un exemple, je sens dans le coma que je suis en train de me retourner comme un gant et de quitter mon corps physique.
Ah oui.
À ce moment-là, c'est un tel soulagement que je dis « Ah, quelle merveille ! Si c'est ça la mort, ok, j'y vais. » Et j'étais à ce moment-là dans une espèce d'aspirateur vers le ciel, cylindre ascensionnel. Et à ce moment-là, j'ai entendu un nom impératif comme du feu qui m'a traversé et en même temps qui m'a donné la phrase qui m'a dit « C'est pas ton moment, regarde tout ce qu'il te reste à pacifier dans cette vie. » Alors, c'est pas un résumé du coma, mais c'est un des moments cruciaux de que j'ai pu y vivre.
Mais du coup, vous avez l'impression que c'est qui vous a dit non ?
Pour moi, c'est providentiel. C'est de cet ordre-là.
D'accord.
Ou de guide spirituel dont j'aurais pas eu connaissance à ce moment-là. Ou de ma propre âme. Je ne sais pas.
Mais vous êtes resté longtemps à l'hôpital ?
Je suis resté dans le coma 10 jours. Et après, en une semaine... Disons que ce qui est extraordinaire, c'est que physiquement, un mois plus tard, j'étais à nouveau sur mon vélo, quoi.
Ah oui.
C'est, ce qui est plus impressionnant, c'est que psychiquement, j'étais très confus, en revanche, pendant longtemps. Confus et dans une excitation extrême. C'est-à-dire que je retrouvais des amis au restaurant, j'avais envie de monter sur les tables pour crier ma joie de vivre. Alors les copains me disaient « Écoute, pas tout de suite. Voilà. » On est content que tu sois revenu. Bon, voilà.
Mais ça a duré combien de temps avant de retrouver un état, j'allais dire comme avant, mais non, vous n'avez pas dû être comme avant, mais à peu près normal.
À peu près normal, mais même mieux que ça, je dis, pour être vraiment tranquille et puis dans une étape de vie nouvelle avec des nouvelles perspectives d'épanouissement et une robustesse. Et puis aussi la sensation d'être un père... cohérent et fiable, parce que j'ai eu 2 enfants dans ces périodes-là. J'étais tombée dans le coma le jour des 2 ans de ma fille Jeanne.
Ah oui.
Et donc, pour vous répondre, 10 ans après. Donc en 2012, et ben c'est là d'ailleurs que j'ai commencé la bande dessinée quand vous pensiez que j'étais mort.
D'accord.
10 ans après.
Et donc, ça a une expérience qui a changé votre vie. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait une exposition à Paris dans le cadre d'un atelier thématique « Soigner, soignant ». Ça vous a rendu sensible à la situation des soignants, peut-être aussi ?
Oui, puisque ma vie a été parsemée de moments d'hospitalisation dès mon enfance. Et je suis devenu ce qu'on appelle un experiencer des soins, des soins extrêmes. Et mon témoignage intéresse en fait les médecins puisque j'y dévoile des moments que potentiellement énormément de patients vivent, c'est-à-dire entre la conscience et l'inconscience. Il y a une continuité de la vie émotionnelle et de la vie sensorielle, et notamment les médecins anesthésistes qui entre eux préfèrent s'appeler réanimateur, évidemment, on préfère réveiller une personne que l'endormir. Ces médecins-là se sont emparés de mon livre et je me retrouve souvent aussi, régulièrement en tout cas, à intervenir pour témoigner dans les colloques médicaux, puisque humblement, mon témoignage fait avancer la science.
Merci en tout cas pour nous raconter tout ça, parce que c'est quand même une expérience particulière. dont vous avez tout tiré du positif et c'est rassurant pour tout le monde.
Oui.
Si on revient à la BD, entre 2007 et 2012, vous avez créé 3 tomes de Martha Jane Canary. En fait, c'est l'histoire de la vie de Calamity Jane.
Oui.
Donc, beaucoup de documentation historique, je suppose. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage?
C'est sûrement sa fougue, son tonus, quoi qu'il arrive. Justement, c'est Christian Périssin, mon ami scénariste, qui m'a envoyé les lettres de Calamity Jane à sa fille, que je conseille à tout le monde de lire. C'est un tout petit livre.
Oui.
C'est un recueil de lettres écrit au pied de son cheval, à côté de son feu, au cours de ses multiples pérégrinations. Et c'est un personnage qui a une vitalité, qui est une générosité. Je pense que c'est ça aussi qui nous a touchés chez Calamity Jane. Sa générosité... si elle est devenue aussi célèbre en son temps, c'est sûrement parce qu'elle avait un talent de conteuse aussi, de bout en train, et que même si la vie était tellement dure à des périodes qu'elle a dû abandonner ses enfants, dont sa fille Janet, elle a plongé dans l'alcool, ce qui l'a sûrement pas aidé à je sais pas comment dire. Ça n'a pas aidé à avoir une vie longue, parce qu'elle est morte à 52 ans d'alcoolisme. Entre sa naissance et 52 ans, à ses yeux, elle avait... Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, comme elle le disait, une vie d'homme, j'en ai pas envie. C'est soit devenir prostituée, soit devenir lavandière. J'ai pas envie de faire ça. Donc, je choisis une vie d'homme. Alors, c'est comme ça qu'elle a été conductrice de diligence. Elle a participé au Pony Express. Je sais pas si c'est difficile à imaginer aujourd'hui.
Bah oui, mais moi j'avais même des doutes. Je savais pas qu'elle avait vraiment existé. Je croyais qu'il y avait une polémique comme autour de Billy the Kid ou. Non, elle a vraiment existé.
Non, la polémique, il y a beaucoup de polémiques pour les personnages légendaires, bien sûr. Mais elle, par exemple, c'est qui a écrit les lettres de Calamity Jane puisqu'elle était peut-être analphabète.
Ah oui.
Voilà. Alors peut-être qu'elle les a dictées aussi, parce que c'est avéré que dès qu'elle pouvait rencontrer un journaliste, elle faisait payer ses renseignements. Donc elle vivotait aussi de biographies qu'elle vendait aux journalistes ou aux passants. C'est d'ailleurs cette petite biographie qu'ont eu entre les mains Maurice et Goscinny pour écrire leur Luculique Calamity Jane. Et quand on a démarré, d'ailleurs, on n'en savait pas plus que Maurice et Goscinny. Il y avait très peu de choses. Et puis, dans les années 90-2000, il y a eu une première biographie d'une Américaine, Doris Faber, avec des archives très belles de photos. Et puis ensuite, son nom m'échappe, mais alors qu'on terminait le 3e tome, des nouvelles recherches ont été faites pendant 10 ans par un chercheur qui a ratissé tous les endroits où son nom avait été mentionné. Alors, ce qui n'est pas facile avec Calamity Jane, c'est que déjà, une Jane, dans l'Amérique du 19e siècle, c'est une fille délurée, qui a une grande gueule et qui peut être un peu une aventurière. Donc, des Jane, il y en avait déjà un paquet aux États-Unis. C'était difficile de distinguer laquelle pouvait donner lieu à cette légende particulière. Et en même temps, comme elle le disait elle-même, elle a dit beaucoup de bobards.
Elle avait une imagination sûrement très riche. On va revenir maintenant au festival de la BD première édition qui a lieu à Saint-Étienne-de-Crossey les 3 et 4 octobre. Ça s'appelle Sa Bulle au village. Et vous êtes le parrain de l'événement. Comment vous êtes retrouvé à être le parrain de cet événement-là?
Oui, c'est une histoire qui me touche beaucoup parce que j'ai passé mon enfance dans la Val d'Aisne et à me promener en Chartreuse. Et j'ai gardé contact avec un ami d'enfance qui est un des organisateurs, qui s'appelle Pierre Mosca, qui m'a dit il y a 2 ans, « Qu'est-ce que t'en penses si je montais un festival? Ça me passionne, la bande dessinée. » Et ben, je lui ai dit « j'en pense que c'est du travail. »
Oui.
Et donc, modestement, je lui ai dit tout ce qui pouvait me plaire dans un festival, par exemple. Et pour baliser un petit peu ses premières démarches pour mettre sur pied un petit festival, mais même un petit festival, c'est toujours une organisation phénoménale. Et d'un côté, lui dire ce qui me plaît dans les festivals dans lesquels je peux me rendre, et puis les écueils aussi qu'on peut rencontrer. Et à partir de là, eh ben, il a travaillé, et il a monté son association, et ça y est, le festival va naître dans quelques jours, quelques semaines.
Oui, c'est difficile à monter, surtout en ce moment avec la Covid et tout ça, je suppose.
Oui. Oui.
Et l'affiche, c'est vous qui l'avez dessinée ?
Oui, tout à fait.
Elle est vraiment magnifique. Hein.
Ah, tant mieux si ça vous plaît.
Oui.
J'ai essayé de faire quelque chose c'est assez classique, à partir du lieu. Et Pierre Mosca m'a donc envoyé des photos de Saint-Étienne-de-Crousey, où je ne suis pas allé souvent récemment. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ce lac, cette petite retenue d'eau là, qui est en contrebas du village historique.
Oui, mais du coup, le pont, il existe ce pont à Saint-Étienne-de-Crousey
Non, c'est un pont, je dirais, ambiance régionale.
Ah oui, d'accord.
il y a beaucoup de ponts de chemin de fer comme ça, dans les Alpes, je pourrais pas dire exactement, mais des ponts comme ça, j'en ai vu il n'y a encore pas si longtemps.
Oui, moi aussi. Et donc, cette affiche, il y a un peu tout dedans. On voit un vampire, on voit la queue du marsupilami, on voit un pirate, une sirène avec des ailes, un singe. Tout le monde est là, en fait.
Il y a un avion, je avise aux amateurs, qui est un mix de deux avions qui sont dans deux albums de Tintin différents.
Ah oui,
voilà. C'est une petite devinette.
D'accord.
Voilà.
Et au niveau des auteurs qui vont venir, vous les connaissez un petit peu ou ils ont été choisis ?
Je connais presque aucun des auteurs, à part peut-être Alexis Nouella, qui est un dessinateur naturaliste qui habite les Alpes et qui est un dessinateur et un animateur très vigoureux et prolifique autour de la nature, des animaux. Et il a lui-même une connaissance proche du naturalisme. Voilà.
Donc, ce n'est pas vous qui les avez choisis, les auteurs ?
Non, j'ai donné quelques noms de personnes, mais certains de mes amis, comme les frères Coudray, oui, qui ont fait Lincoln, n'étaient pas disponibles. Il y a un auteur qui sera là, qui sera un camarade, oui, Alexis Nouella. Peut-être que j'en découvrirai d'autres, d'ailleurs.
Vous allez venir, du coup, sur place ?
Oui, tout à fait. Je serai là le samedi et le dimanche.
Et sinon, on entend souvent dire que le monde de la BD, c'est plus pour les enfants ou masculin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, il y a une part d'enfance dans la capacité à rêver à partir d'images et d'histoires. C'est une part d'enfance qui peut continuer, mais ce goût-là pour les images, il y a aussi, on le retrouve aussi au cinéma. Maintenant, justement, la revue Lapin que vous évoquiez au début de l'entretien, c'est une revue qui est née chez l'éditeur L'Association, qui a publié ensuite Marjane Satrapi. Donc, c'est tout un pan de la bande dessinée qui s'adresse plutôt aux adultes qu'aux enfants. Et sans... Comme disait le journal de Tintin, ça existe encore. Mais il y a aussi tout un pan de la bande dessinée qui est très adulte. Et qui notamment plaît à un public féminin qui vient plutôt de la littérature, plutôt d'un goût pour la littérature. On peut retrouver ce goût pour la littérature dessinée. C'est ce qu'on appelle des romans graphiques.
Ah oui.
C'est-à-dire dès qu'on dépasse le format d'un album classique, par exemple 46 pages ou 162 pages, qui n'est pas un format d'éditeur, qui est un format d'imprimeur au début, c'est intéressant de savoir. C'est des contraintes d'impression qui ont donné ce format qui est devenu classique. Donc on a des livres qui peuvent faire plus de 100 pages, 200, 300, 400, même parfois 500 pages.
Ah oui, quand même. Parce que moi, à part Bretéché en femme, je ne connais pas trop d'auteurs de BD femmes. Vous en connaissez, vous ?
Marjane Satrapi, par exemple, qui a écrit sur son enfance en Iran, ces livres, mais qui ont été adaptés en dessin animé aussi, en film d'animation, incombe, mais ça m'échappe là sur l'instant. Il y a les livres de Guy Delisle aussi qui sont des témoignages passionnants sur, par exemple, sa vie à Jérusalem à une époque. Donc, c'est des romans graphiques souvent abordent aussi des aspects journalistiques. On peut raconter en bande dessinée une forme de reportage. Joe Sacco, par exemple, alors là, c'est plus une femme, mais ni Guy Delisle. Mais les femmes en bande dessinée, il y a Catel qui fait aussi beaucoup de biographies sur des femmes.
D'accord. Et vous procédez comment, vous, pour dessiner? C'est à l'ancienne, vous m'avez dit, mais c'est-à-dire avec des crayons de couleur, comment?
Avec des crayons d'abord, pour préparer un croquis préparatoire. Et ensuite, le plus souvent, c'est à l'encre de Chine et à la plume. Là, mon prochain livre, ça sera entièrement à l'aquarelle en couleur.
D'accord. Oui, les couleurs, ça vous plaît, hein? Cette affiche, elle est vraiment très riche en couleurs.
Ouais. Longtemps, j'étais frustré parce que je pensais que j'étais pas un bon coloriste, parce que c'était difficile. Et puis, le fait d'avoir fait 15 années d'illustration, entre 87 et les années, la fin des années 90, ça m'a permis d'essayer beaucoup de techniques, l'acrylique. J'ai fait beaucoup de couvertures de livres à l'acrylique, à la gouache, aux éditions J'ai lu, etc. Ou pour la jeunesse. Et en bande dessinée, j'ai surtout travaillé au début en noir et blanc parce que c'est plus proche de l'écriture et il y a quelque chose de plus immédiat, plus rapide pour passer de l'idée au dessin.
Oui.
Et quand je terminais ce témoignage justement sur ma régénération après le coma, quand je suis tombé sur le journal de bord de ce marin anglais du 18e, Hanson, le commandant Hanson, je me suis pris à rêver de couleurs, de cieux, de mer, d'océan, de bateaux, et j'imaginais pas ça autrement qu'en couleurs. Donc c'était l'occasion pour moi de faire pour la première fois un livre, en tout cas une bande dessinée entièrement en couleurs qui fait pas loin de 300 pages. C'était presque 5 ans de dessin. Et j'en suis encore essoufflé.
Oui. Ben en tout cas, merci beaucoup Mathieu Blanchin. On va être obligé de se quitter là. On se retrouve donc au Festival de la BD, première édition, 3 et 4 octobre à Saint-Étienne-de-Crossé. Ça s'appelle Sa bulle au village et ça a l'air d'être très très bien parti en tout cas.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir, vous aussi.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Et on poursuit en musique, on va écouter Smash Mouth All Star. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Donc voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Demain, on devrait retrouver Alain Graz pour parler littérature et poésie. Donc on reste dans le domaine du livre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Profitez bien du soleil et à demain. Ciao, bye bye. Go, go,
game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine.